Bonjour à tous, bienvenue dans Le Bon Bouquin. Je suis Eugénie et aujourd'hui je vais vous parler littérature. Le Bon Bouquin, c'est le podcast qui vous redonne le goût des livres à travers des chroniques littéraires, des anecdotes sur le monde de la littérature, des conseils pratiques pour réintégrer la lecture dans votre quotidien. Je vous parle des livres qui m'ont captivée, des livres qui ne m'ont pas laissée indifférente et dont je me souviendrai toute ma vie. Je vous pousse les portes de ma bibliothèque, peuplée de classiques et de romans contemporains, de gros pavés ou de petits livres de rien du tout. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je vais être sincère avec vous, aujourd'hui je n'avais pas beaucoup de temps pour réaliser cet épisode. C'est pourtant la semaine du Salon du Livre, celle où je devrais mettre le paquet, celle où le livre devrait être roi. J'ai finalement accepté de n'en faire qu'un petit prince ou un gros valet. J'ai finalement accepté de ne pas me flageller avec des orties parce que je n'avais pas fait 4 épisodes spéciaux à l'occasion de cet événement littéraire incontournable, comme j'en avais caressé l'idée. Parce que ce que je veux aussi transmettre avec ce podcast, c'est que lire c'est bien, que les livres sont nos amis, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, que lire apporte énormément, mais qu'il ne faut pas non plus se faire bouffer par eux, ou plus exactement par la charge mentale d'en ouvrir un absolument tous les soirs. C'est pareil pour le podcast, c'est bien d'en faire un, ça l'est moins quand ça nous met en burn-out. Je n'exagère pas du tout. Donc, avec les vacances scolaires, le boulot, le changement d'heure, les projets perso et bien sûr les tâches quotidiennes, les modifications de RIB sur la plateforme de la cantine, les rendez-vous chez le dentiste, l'abonnement à l'appli d'auto-hypnose qu'il faut résilier depuis 8 mois, bref, toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, créent cette espèce de masse informe qui paraît assez indomptable, j'ai du mal à tenir le rythme. Et dans ce cas-là, quand je me sens submergée par les événements, je reviens aux sources. J'ai besoin d'être rassurée, d'évoluer dans une atmosphère qui me donne confiance, comme quand on revient dormir chez ses parents après s'être fait larguer, qu'on regarde un Bridget Jones quand on est malade, qu'on se promène dans la forêt quand on est stressé, que l'on remet un pied dans la maison de notre enfance. Et dans le monde de la littérature, c'est ce que Zweig m'offre, ce confort, cette impression d'être là où je dois être, grâce à ces histoires à la fois merveilleusement écrites, impactantes et poétiques. Les romans de Zweig, c'est la saucisse purée de la grand-mère, le câlin de papa et maman avant d'aller se coucher, la petite tape sur l'épaule, pudique et sincère, du copain qui nous comprend. Bref, c'est une littérature nécessaire. Son écriture allie beauté et légèreté. On tourne les pages facilement tout en réfléchissant au sens de la vie, au tréfonds de l'âme humaine, ce genre de choses quoi, carrément. Zweig rassemble, à mon sens. Aujourd'hui, j'avais envie d'un livre qui fasse presque l'unanimité. J'avais une envie folle d'harmonie, une harmonie qui puisse faire face au désordre du quotidien. Parmi tous les livres que j'ai lus de cet auteur, j'ai choisi 24 heures de la vie d'une femme. Tout simplement parce que je l'ai relu récemment et que je l'ai une nouvelle fois adoré. J'avais un excellent souvenir de ce livre et des années après, il ne m'a pas déçu. Je vous avais déjà parlé d'un bouquin de Zweig dans l'épisode 2 du Bon Bouquin. J'avais évoqué rapidement le joueur d'échecs, mais parmi bien d'autres recos. Aujourd'hui, je souhaiterais lui consacrer l'épisode entier. Et pour cela, avant tout, je vous propose une petite exploration de la vie de Monsieur Zweig. Auteur brillant, fabuleux, merveilleux, qui a marqué à jamais le monde de la littérature. Stefan Zweig est né le 28 novembre 1881 à Vienne, dans une famille aisée. Il est baigné dès son plus jeune âge dans un environnement propice à l'épanouissement intellectuel. Dès son adolescence, Zweig se révèle être un esprit prodigieux, dévorant les œuvres des plus grands écrivains et intellectuels de son temps. Sa passion pour la littérature et la philosophie le conduit à suivre des études à l'université de Vienne, où il se lie d'amitié avec des esprits éclairés tels que Sigmund Freud. Je ne préfère pas vous citer les autres, car il m'est littéralement impossible de prononcer leur nom. Bref, Zweig débute sa carrière d'écrivain avec une série de nouvelles et de romans qui ont très vite du succès. Son style, fluide et envoûtant, transporte les lecteurs dans des mondes où la passion, le mystère et l'émotion règnent en maître. Au fil des années, Zweig devient l'une des figures les plus éminentes de la scène littéraire européenne. Il parcourt le continent et tisse des liens avec les plus grands esprits de son temps. De Romain Rolland, écrivain français et prix Nobel de littérature en 1915, à Émile Verhaeghe, poète belge, pour ceux qui n'ont comme moi pas la ref. Son œuvre d'une grande richesse explore les profondeurs de l'âme humaine, ses paradoxes, ses secrets les mieux gardés. Zweig est aussi connu pour ses biographies. Il en a écrit sur Marie-Antoinette, sur Marie Stuart ou encore Fouché. Côté love, l'écrivain a été marié deux fois au cours de sa vie. Son premier mariage a été avec Friederike Maria von Wintersnitz en 1920, avec qui il a eu une fille, Hélène, en 1922. Mariage tumultueux qui finit en divorce en 1938. Et en 1939, Zweig épouse Charlotte Altmann, également connue sous le nom de Lotte. Ils se rencontrent au Brésil où Zweig s'est exilé. Et Charlotte, à l'époque, était sa secrétaire et traductrice. Reprenons la chronologie de l'histoire de Stéphane. L'ombre grandissante du nazisme casse un peu l'ambiance et marque un tournant que l'on peut qualifier de funeste dans la vie de l'auteur. Opposé aux idéaux totalitaires qui menacent de submerger l'Europe, il quitte son pays natal en 1934, cherche refuge d'abord en Angleterre, puis au Brésil. Il continue à écrire en exil et y produit de magnifiques textes. Mais tous ses travaux n'arrivent pas à éclipser son malheur. Profondément affecté par le climat politique et social de son époque, Zweig sombre dans une profonde dépression. Le 22 février 1942, il met fin à ses jours aux côtés de Lotte. Je voulais revenir sur les raisons qui l'ont conduite au suicide. Celles-ci ont en effet été sujettes à interprétation et ont été débattues par les historiens, les biographes et les critiques littéraires. En gros, on pense qu'il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, le contexte politique et social de l'époque. Zweig était profondément bouleversé par la dévastation de la Seconde Guerre mondiale et par la perte de son pays natal, l'Autriche, qui avait été annexée par l'Allemagne nazie en 1938. De plus, Zweig a exprimé à plusieurs reprises son épuisement face à la lutte contre la tyrannie et l'oppression. En tant qu'intellectuel humaniste et pacifiste, il était profondément meurtri par les conflits idéologiques et politiques qui déchiraient l'Europe. Son sentiment d'impuissance à influencer les événements ou à œuvrer pour la paix dans un monde en crise peut avoir alimenté sa désillusion et son désespoir. Enfin, certains biographes suggèrent que des facteurs personnels tels que des problèmes de santé ou mental ou des difficultés relationnelles ont pu également contribuer à son état émotionnel fragile. Il faut toutefois aussi noter que Zweig n'a laissé aucune lettre ou explication détaillée de son geste, laissant ainsi une part de mystère entourant les raisons exactes de son suicide. Allez, place à la chronique. « 24 heures de la vie d'une femme » est une nouvelle de 124 pages dans la collection Poche qui a été écrite en 1927. Comme très souvent avec Zweig, nous sommes dans une mise en abîme. « 24 heures de la vie d'une femme » raconte l'histoire d'une femme qui raconte une histoire qui est la sienne. Mais encore, effectivement, c'est pas très clair tout ça. Je vais vous la refaire. Le roman s'ouvre sur une petite pension de la Côte d'Azur en plein émoi. Une des clientes, une pensionnaire prénommée Henriette, vient d'abandonner mari et enfant pour s'enfuir avec un jeune homme qu'elle connaissait à peine. Ça jacasse sec dans la pension. Ainsi m'exprimais-je à peu près. Et plus la conversation devenait crépitante, plus les autres attaquaient la pauvre Madame Henriette, plus je la défendais avec chaleur. Tout le monde fustige Henriette, à part le narrateur et une femme plus âgée, une Anglaise qui a du chic. Une Anglaise élégante, mais un peu sèche, décrite ainsi. Un recueillement et un calme admirable rayonnaient de son être aristocratiquement réservé. C'est ainsi que le narrateur et la vieille dame anglaise, Mrs. C, elle n'a pas de nom dans le roman, commencent à discuter et que celle-ci lui raconte son histoire à elle, dont le scandale du jour ravive les souvenirs. C'est l'histoire d'une journée, de 24 heures à peine, qui a fait voler en éclats son existence. La narratrice était elle aussi à l'époque une femme bien sous tout rapport, comme Madame Henriette. Elle avait 42 ans, venait de perdre son mari et avait décidé de voyager sur la Riviera. C'est sa rencontre avec un jeune homme dans un casino de Monte Carlo qui va changer sa vie. Ce qui m'a frappé d'abord dans cette lecture et qui est resté ancré en moi pendant longtemps, c'est la description des mains du jeune homme. La dame tombe d'abord amoureuse de ses deux mains. Malgré moi, je regardais étonnée de l'autre côté du tapis. Et je vis là, vraiment j'en fus effrayée. Deux mains comme je n'en avais jamais vu. Une main droite et une main gauche qui étaient accrochées l'une à l'autre, comme des animaux en train de se mordre, et qui se serraient et s'opposaient farouchement, d'une manière si âpre et si convulsive que les articulations des phalanges craquaient avec le bruit sec d'une noix que l'on casse. C'étaient des mains d'une beauté rare, extraordinairement longues, extraordinairement minces, et pourtant traversées de muscles extrêmement rigides, des mains très blanches, avec, au bout, des ongles pâles, au-dessus nacrés, délicatement arrondis. Le jeune homme est au bord du désespoir, il est complètement accro au jeu, il vient de tout perdre. La dame essaye de l'aider, en gros. Je n'ai pas envie de tout vous dévoiler, mais cette femme pense l'avoir sorti d'un mauvais pas. Elle pense lui avoir sauvé la vie. Ils se rendent même dans une petite chapelle pour remercier Dieu. L'anglaise lui fait promettre qu'il ne touchera plus jamais à un jeu de hasard. Et pendant ce temps, évidemment, des sentiments surgissent dans son cœur à elle. En essayant de l'aider, de le tirer hors du caniveau, elle se prend un peu au jeu, si je puis dire. Elle mesure sa reconnaissance, lui donne peut-être un peu trop de valeur d'ailleurs, et se prend à rêver d'une fuite en amoureux. Ce fut pour moi une déception. Une déception que je ne m'avouais pas, ni alors, ni plus tard. Mais le sentiment d'une femme, c'est tout, sans parole et sans conscience précise. Car, maintenant, je ne m'abuse plus. Si cet homme m'avait alors saisi, s'il m'avait demandé de le suivre, je serais allée avec lui jusqu'au bout du monde. J'aurais déshonoré mon nom et celui de mes enfants. Indifférente au discours des gens et à la raison intérieure, je me serais enfuie avec lui, comme cette Madame Henriette avec le jeune Français, que la veille elle ne connaissait pas encore. Je n'aurais pas demandé ni où j'allais, ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière moi, sur ma vie passée. J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune, mon honneur. Je serais allée mendier, et probablement, il n'y a pas de bassesse au monde à laquelle il ne m'eût amenée à consentir. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur et réserve, si seulement il s'était avancé vers moi, en disant une parole, ou en faisant un seul pas. S'il avait tenté de me prendre à cette seconde, j'étais perdue et liée à lui. Pour toujours. C'est un roman très moderne. Il parle d'un scénario qui aujourd'hui a encore lieu tous les jours. Succomber à la passion plutôt que de subir un quotidien trop étriqué. Vivre au moins une fois, quitte à tout renverser, à tout détruire, à tout salir. Et ce qui est aussi abordé dans cette nouvelle, c'est la fulgurance de cette envie, qui peut apparaître comme ça, extrêmement rapidement, en quelques heures, quelques minutes. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Madame Henriette. C'est le thème du « Je suis passée à côté de ma vie depuis tout ce temps, il est urgent que je m'en aille. Il est urgent qu'aujourd'hui je vive vraiment ma vie. Tant pis pour les convenances, tant pis pour les enfants, tant pis pour l'argent, tant pis pour les autres. » C'est un très long thème. On ne peut pas nier que ça a un côté très romantique et beau, hein, qui fait fi des choses matérielles et de la réalité de la vie. C'est complètement le contraire de ce que décrit Sagan d'ailleurs dans ses livres, dont les héroïnes sont souvent rattrapées par une envie de confort, par un besoin matériel. La Chamade, dont je parle d'ailleurs dans l'épisode 16 du Bon Bouquin, met très bien en valeur cela. Malheureusement, tout ne se passe pas comme Mrs. C l'avait imaginé, et à cette occasion, elle découvre la complexité de l'âme humaine. On ne vit pareille heure qu'une seule fois dans sa vie, et cela n'arrive qu'à une personne parmi des millions. Moi non plus, je ne me serais jamais doutée, sans ce terrible hasard, avec quelle force du désespoir, avec quelle rage effrénée. Un homme abandonné, un homme perdu, aspire une dernière fois la moindre goutte écarlate de vie. Éloigné pendant 20 ans, comme je l'avais été, de toutes les puissances démoniaques de l'existence, je n'aurais jamais compris la manière grandiose et fantastique dont parfois la nature concentre dans quelques souffles rapides tout ce qu'il y a en elle de chaleur et de glace, de vie et de mort, de ravissement et de désespoir. C'est vraiment fou de se dire qu'avant cela, cette femme n'avait jamais connu de passion, n'avait jamais vraiment connu l'humanité, la douleur, les sentiments. Et je pense que si on posait la question aujourd'hui à toutes les femmes de 42 ans, ce ne serait pas la seule. Ce livre parle de passion dévorante, du jeu, bien sûr, mais aussi de l'amour. Il parle de la vitesse à laquelle une vie construite, stable, peut s'évaporer face à la violence d'une passion. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Sachez que j'adore toujours autant réaliser ce podcast, qu'il m'apporte beaucoup de joie au quotidien, et que vos messages aussi. Donc, continuez. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, Eugénie_lebonbouquin, tout attaché, et surtout, vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça change tout pour moi. À dans 2 semaines, et d'ici là, bonne lecture.